Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint in Box, Planet Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bienvenue à Star Wars en direct depuis plus de 20 ans, la voix du fandom Star Wars, pour cette édition série qui sera consacrée ce soir aux épisodes 8 et 9 de la série The Bad Batch. Pour m'accompagner ce soir, je dis bonjour à Sylvain.
Bonjour Loïc, bonjour public.
Et donc on va débriefer ensemble rapidement ces deux épisodes. Cette émission sera-t-elle aussi courte qu'un épisode ou bien sera-t-elle du format habituel d'une heure ? C'est ce que nous découvrirons à la fin de cet épisode.
En tout cas, ça va saigner.
Alors, si vous avez aimé les épisodes de The Bad Batch, si vous aimez The Bad Batch, je vous invite tout de suite à fermer l'ordinateur, à couper, et parce que Sylvain risque d'être vraiment, 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 vraiment très, très vilain ce soir. Voilà. Alors, est-ce que moi, je serai aussi vilain que Sylvain ? C'est ça la bonne question qu'on découvrira un petit peu plus tard. Pour commencer, Sylvain, j'ai envie de te demander, what's up, Star Wars ?
Pas grand chose pour le moment. La livraison des Hot Toys, c'est un peu de retard, donc je suis en train de reconstituer la Justice League version Snyder en Hot Toys. Donc, là, je viens de recevoir Aquaman. Il me manque plus que Flash. Et Cyborg et Batman Tactical Armure arrivent au mois d'avril. Donc il ne me restera plus que Flash à avoir. Voilà.
Un super WhatsApp Star Wars pour baser sur la Justice League. Bravo pour ce magnifique crossover, Sylvain. Quant à moi, pas grand-chose non plus. On peut dire que l'actualité est un petit peu calme en ce moment, malgré une très belle bande-annonce pour The Acolyte que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, c'est quelque chose qui m'a plu, le fait de revoir beaucoup de Jedi, d'avoir ce côté un petit peu clair et lumineux, même si la série annonce du côté obscur, mais pour l'instant c'est clair et c'est assez lumineux, et ça fait plaisir. On va faire un petit point sur nos dernières émissions. Vous trouverez de la littérature, comme d'habitude. Un épisode consacré au tome 6 de la série Star Wars sorti chez Panini Comics, où Jean et Francis m'ont donné envie d'acheter un comics, donc c'est assez rare pour être souligné. Un autre épisode série où là, Jean et Julien débriefent des trois mangas Star Wars sortis chez Nobby Nobby. Et puis, vous pourrez retrouver évidemment les débriefs de la semaine dernière, puisque le replay de ces émissions en direct live sont disponibles dès le lendemain. Je vous rappelle aussi, si vous ne l'avez pas déjà écouté, notre épisode spécial, notre fanfiction, notre audiodrama au Scarif Festival, où Fred et Aude ont fait un voyage intergalactique pour vous ramener des images, non, mais au moins des sons un peu insolites de la galaxie Star Wars. On dit bonjour quand même aux gens qui nous ont rejoints. Salut Circe, salut Philippe, Sylvain, Elser, salut à vous tous. On vous fait un gros coucou. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude, à nous rejoindre. Et puis, on va pouvoir commencer notre débrief de ces deux épisodes. Sylvain, j'ai envie de dire, c'est à toi. Pour un résumé de folie pour cet épisode 8.
Ça, ouais. Oh là là. Alors attention, première alerte, on va être full. Allez, c'est parti, et tous ceux qui n'aiment pas mes résumés, c'est pas prêt de changer. Alors, l'épisode, c'est le combien ? Le 8, c'est ça ?
Oui,
alors, il se passe rien, c'est un épisode filler. Donc, en 25 minutes, il y a Hunter et Wrecker qui se font bolosser par Fennec Shand dans un... ils ont besoin d'elle, on ne sait pas trop pourquoi, hein. Mais ils vont sur une barge, ils remontent le Yangtze ou n'importe quelle autre rivière ou fleuve en Asie du Sud-Est. Ils font trempette dans l'eau parce qu'il y a des grosses mimines, et puis ils font mémuse avec des gros alligators. Après, ils vont fracasser un mec mante religieuse. Et puis il donne le monsieur mante religieuse à Fennec, et elle se barre en leur promettant que qu'elle leur retrouvera des renseignements. Donc ça leur prend 20 grosses minutes. Ils ont eu le temps de se faire bolosser 366 fois par Fennec. Hein, on rappelle, c'est censé être des soldats des forces spéciales. Et pendant ce temps-là, comme disaient les nuls, j'ai oublié le nom de la ville, donc je peux plus faire ma blague. À Veracruz, c'est bon. Et pendant ce temps-là, à Veracruz, il y a Omega et Crosshair qui vont voir le médecin. Et au bout de 677 jours d'analyse, 887 examens et 12 prises de sang, le robot, il a enfin réussi à comprendre que le fait que Crosshair, il a la main qui tremblote un peu, c'est un PTSD. Voilà, fin de l'épisode. Ah. Merci, bonsoir.
Et c'est un très bon résumé de la part de Sylvain, puisqu'on est sur un épisode, effectivement, où il ne se passe pas grand-chose. Avant, juste qu'on donne une critique, je voudrais te demander, Sylvain, jusqu'à ces épisodes, quel est ton avis sur la saison ?
De la merde.
Voilà. J'allais dire en deux, trois mots.
La merde. Voilà, ça fait trois mots. Non, là, je fais un peu... J'aimais beaucoup l'ambiance des deux, trois premiers épisodes, jusqu'à ce qu'elle s'évade. Il y avait une ambiance lourde, un truc pesant. Même si c'était de la biologie pour les nuls, il y avait une ambiance fin du monde. L'Empire est là, l'Empire a posé ses marques. C'était la merde pour les héros. Mais à part ça, Omega, j'ai toujours autant envie de la catapulter. Les forces spéciales, moi, je les abandonne au milieu du désert ou sur Tatooine. Ils se démerdent, je ne veux plus en entendre parler. Et les autres personnages qui croisent, ils passent leur temps réellement à bolosser les clones. De la merde. Globalement, de la merde, à part l'ambiance pesante, de la merde. Et là, c'est de la merde sur de la merde sur de la merde. Honnêtement, j'en peux plus. J'en peux plus parce que c'est ni fait ni à faire. C'est de la merde.
Merci Sylvain pour cet avis. Quant à moi, vous le savez peut-être si vous nous écoutez, j'ai plutôt apprécié les deux premières saisons. Et j'apprécie beaucoup et même beaucoup plus ce début de troisième saison. Et on est arrivé à l'épisode 8 avec le premier épisode que je n'ai pas aimé. Le seul épisode que je n'ai pas aimé, le seul épisode qui me semble absolument, absolument inutile, que ce soit pour la construction, pour le développement des personnages ou pour l'avancée de l'histoire. Donc, voilà. Mais en attendant, j'y trouve mon compte. On est toujours dans cette plongée au sein de la galaxie Star Wars. J'ai expliqué sur notre Discord il y a quelques temps comment je voyais la série. C'est-à-dire que je lis des romans Star Wars depuis 1999. Et en fait, j'avais dans ces romans Star Wars des scènes, des passages qui en fait me font beaucoup penser à The Bad Batch. Pardon. Et oui, parfois, c'est des passages qui sont beaucoup moins intéressants. On peut imaginer hein, dans un livre que tous les chapitres ne sont pas les passionnants, que certains sont plus lents ou qui développent d'autres choses qui sont plus annexes puisqu'on a le temps. Eh bien, en fait, je vois la série de cette façon-là. On a une alternance entre des choses qui font avancer l'histoire, des choses qui font du développement de personnages, des scènes qui nous montrent juste la vie des personnages qui ne sont pas là forcément pour nécessairement faire avancer les choses, mais pour développer, nous faire connaître un peu plus les personnages, développer les relations peut-être, pourquoi pas. Donc j'y trouve mon compte et je suis satisfait pour l'instant de ce que j'ai vu. Alors oui, évidemment, les deux, trois premiers épisodes étaient peut-être encore plus au-dessus du lot. Je vais rejoindre Sylvain avec cette ambiance pesante très caractéristique qui était plutôt sympa. Maintenant, je trouve que ce qu'on nous apporte pour l'instant me va. On n'oublie pas, hein, on n'est pas dans la saga Skywalker, on est dans une petite histoire dans la grande histoire qui sera
repérée avec ça. Oui. Je ne suis pas d'accord avec toi sur le thème de petite histoire dans la grande histoire. Il y a clairement trop de personnages qu'on revoit tout le temps. L'histoire d'Omega, tout le truc autour d'Omega, autour des clones, autour de son sang, autour du machin, c'est clairement pour nous expliquer
bien sûr
comment Palpatine il a survécu. Donc oui, c'est pas la petite histoire, c'est le cœur. C'est le cœur du bordel.
Je ne suis pas d'accord.
Pardon de dire, toute la série The Bad Batch, elle a été, pour moi, elle a été conçue uniquement dans le but de rattraper le scénario à la con de Abrams dans l'épisode 9. Tout le principe de The Bad Batch, il est là. Essayer de rattraper les pots cassés.
Je pense que
l'histoire globale de tout ça un peu plus cohérent que ce qu'on a vu. Donc pour moi, c'est pas du tout la. Toutes les séries du Filoniverse, elles vont, comme le dit Philippe ou Elsia, toutes les séries du Filoniverse tendent vers comment. Est-ce que Palpatine a fait pour survivre à son vol plané dans le cœur du réacteur de l'étoile de la mort?
Je pense qu'en fait, vous donnez beaucoup plus d'importance à cette série qu'elle n'en avait au démarrage. C'est-à-dire que, à mon avis, moi c'est mon avis, cette série n'était pas conçue pour ça. Mais on a profité en fait de cette série, puisque le cœur, hein, ça reste les clones, hein, ça reste cette histoire de clonage et cette histoire de transition entre la République et l'Empire, et c'est ça le cœur de la série. Par contre, on a dû dire à Filoni, écoute, comme tu es parfaitement au bon moment, ben, ça serait bien que tu nous raccordes un peu tout ça avec ce qu'on a amené dans l'épisode 9 et ce qu'on a essayé de faire dans Mando saison 1 et 2. Donc, tu nous fais un petit lien avec ça, et puis on n'en parle plus. Alors, et là, on a un commentaire de Philippe qui nous dit qu'il est d'accord sur le fait que voilà, c'est une série qui est peut-être moins importante, mais qu'on est sur des petits épisodes qui sont limités et que ce qu'il recherche dans une série, c'est pas la même chose que ce qu'il attend d'un livre. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, sauf que je suis peut-être plus tolérant parce que je lis des livres depuis longtemps et que à une époque, je m'imaginais voir ce que je lisais en fait en live ou en animation, peu importe. Et aujourd'hui, en fait, c'est le cas. Et ça fait peut-être que mon avis est moins agressif. Je suis peut-être plus sympa avec la série pour cette raison. C'est possible.
Mais tu sais, effectivement, je suis peut-être un peu agressif avec cette série, mais le problème, c'est que de toutes les séries que je regarde, et pas que The Bad Batch ou les séries Star Wars, je regarde la série Halo, je regarde d'autres séries Amazon Prime sur Netflix. Ils essayent tous de te raconter une histoire en 4, 5, 6, 12 épisodes. Le problème, c'est que j'ai vraiment l'impression que leur histoire, elle n'est pas conçue pour tenir en 12 sur une aussi grande longueur et qu'ils passent leur temps à brasser. Ce que tu appelles du développement de personnage, c'est de la merde. Le coup du PTSD de Crosshair, on l'a tous compris dès qu'on l'a vu trembler. Ça fait 4 épisodes que le mec, le pauvre gars qui a quand même une intelligence supérieure, qui est entouré par ses potes, qui sont aussi des soldats spécialisés, les mecs, merde, pourquoi tu loupes tes cibles? Pourquoi si on l'a tous deviné immédiatement dès qu'on a vu les premiers symptômes. Pourquoi ils mettent 12 épisodes pour te le dire à l'écran? Moi, c'est ça le problème que j'ai avec cette série. Tu vois, la série Halo que je rapproche de la série The Bad Batch dans sa construction, il y a la saison 2 qui vient de se terminer. À quel... tu sais à quel moment le héros a réellement atteint son arc narratif de la saison 2 ? Dans les 15 dernières minutes du sixième épisode, du dernier épisode de la série. Tout le reste, entre ce que tu vois dans les 20 premières minutes du premier épisode jusqu'à ça, c'est de la merde. Il fait que passer d'un point A à un point B en se posant des questions, de merde qu'on a tous compris dès le départ. Il y a des personnages qui changent d'avis les deux épisodes sur le même sujet et ça n'a aucun intérêt. Ça n'a réellement aucun intérêt. Le seul intérêt, c'est que t'as le héros, dans les 20 derniers épisodes, il atteint enfin le but qu'il s'est donné dans le premier épisode et fin de la saison 2. Attendez la saison 3 pour avoir la fin pour avoir la continuité de l'histoire. Mais merde, quoi, si on raconte un film de 8, une histoire en 8 heures, faites que les 8 heures soient intéressantes. Pas les 30 premières minutes, c'est les 30 dernières minutes.
Alors, je suis d'accord hein, sur le principe, hein, je suis d'accord, mais attention, on est quand même sur une série qui n'est pas une série live, qui est une série animée. Rebels et Clone Wars avaient le même schéma, des épisodes filler qui ne servaient à rien, si ce n'est à nous montrer en fait, la vie de tous les jours en fait, des personnages. Donc, je ne suis pas choqué, si ce n'est qu'on a beaucoup moins peut-être d'atomes crochus et d'attachement à ces personnages qu'on a pu avoir dans Rebels ou dans Clone Wars, mais enfin, c'est vraiment le même schéma.
Dans The Clone Wars, t'avais peut-être des épisodes filler, mais t'avais pas un épisode filler dès l'épisode numéro 2 de la série.
Ok, t'avais, bien sûr, d'accord.
T'avais des arcs de 2, 3, voire même parfois 4 épisodes qui se suivaient, qui se groupaient. T'avais un arc sur le vaisseau de la main invisible, puis t'enchaînais directement avec l'arc. Et puis après ces arcs-là, là dans ce Bad Batch, on est au début de la saison 3, des épisodes filler sur les trois premières saisons, il y en a plus que des épisodes normaux. À un moment, il faut arrêter. Il rallonge une histoire qui aurait dû s'arrêter depuis bien longtemps.
Je suis pas d'accord, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on se mettra pas d'accord ce soir. On sera pas d'accord sur.
De toute façon, j'ai raison et t'as tort.
Évidemment. Donc, on va pas.
C'est le truc de base déjà.
Donc, on va pas faire le débat pour savoir qui a raison, qui a tort. Moi, je voulais que pour les personnes qui peut-être ne nous ont pas entendus ou nous prennent en route, puissent savoir comment on se positionne par rapport au reste de la saison, déjà. Voilà. Maintenant, vous avez eu nos avis sur le démarrage de la série, enfin, de la saison, même de la série en entier. Ouais. Et donc, on va enchaîner, tout simplement, hein, sur les critiques de l'épisode. Alors, Sylvain, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé de l'épisode ?
Du 8, donc ?
Oui, bien sûr, du 8.
Pas peu chiant en fait. Vraiment chiant parce que il se passe vraiment rien. Encore une fois, c'est des gars des forces spéciales qui se font bolosser par un personnage fétiche de Filoni. Et puis après, plus rien. J'ai vraiment pas grand chose à dire sur cet épisode. Il se passe rien. Ils vont voir quelqu'un parce qu'ils ont besoin d'un renseignement.
Ils vont voir Fennec, pour ceux qui n'ont pas suivi, éventuellement, qui n'ont pas regardé.
Ils vont voir Fennec et leur dit « Ok, je vous donne les renseignements, mais d'abord, il faut que vous m'aidiez à faire un truc. » Les mecs boudent, ils vont quand même faire le truc. Et puis après, Fennec leur dit « Ah bah merci, allez, moi j'y vais, et puis dès que j'ai des infos, je me tire. » Et de l'autre côté, on a Omega et Crosshair qui sont chez le médecin. Et puis d'un coup, ça nous pop. Malgré tout, mon intelligence et mes examens physiques qu'on t'a fait, je sais pas ce que c'est. Peut-être que ton problème, il vient de ta tête. Oh, mais putain.
Alors, je vais être d'accord avec Sylvain. Je vais être d'accord avec Sylvain sur cet épisode.
Voilà.
Je suis forcé de dire qu'il est long, il est chiant. Alors, en plus, il n'a pas de chance, il possède une ambiance que j'aime pas du tout. Hein. On n'est pas d'accord non plus sur Sylvain, sur l'ambiance. Alors, je vous ai mis quelques photos pour ceux qui ne voient pas donc, le bateau que prennent Fennec et les deux clones, qui vogue en fait, sur une espèce de grosse rivière avec des tons très jaunâtres. Sylvain, lui, il voit le Vietnam. Moi, j'y vois la Louisiane. Louisiane, pourquoi ? Parce qu'en plus, on a, en fait, c'est un marais. On a un bateau qui ressemble au bateau qu'on a dans ce bayou. Et puis, on a des crocodiles. Donc, des vilains crocodiles, hein, parce qu'il faut toujours des méchantes bestioles. On ne peut pas avoir des gentils...
Ouais, mais il ne les tue pas, les méchantes bestioles, hein, t'as vu ?
Ah, mais il tire dessus, mais en fait, visiblement, la carapace est un peu trop grosse, donc il n'y a pas de point pour les blesser. Mais voilà, pour moi, c'est une ambiance Louisiane. Voilà, il y a des mines. Alors, c'est vrai qu'il y a des mines sous-marines, des mines de l'Empire.
Ouais, bon, c'est vrai que même niveau teinte, ça pourrait être la Louisiane.
C'est
effectivement.
Ça, en fait. Avec
soit c'est la Louisiane, soit c'est Dunkerque, quoi.
on passe le coucou aux gens de Dunkerque qui nous écoutent, évidemment. Du bois qui sort de l'eau, etc. Donc voilà. Bon, ça c'est pour l'ambiance. Donc en plus c'est une ambiance où je suis pas fan. Je suis pas trop fan des ambiances un peu pesantes aussi. Et par contre, alors on a Philippe qui nous dit qu'il trouve que c'est moche. Alors c'est plus moche parce qu'en plus c'est très sombre. On est toujours dans cette teinte de jaune. En revanche, il y a des plans au démarrage qui sont quand même extrêmement sympathique. J'affiche à l'image pour ceux qui nous regardent sur YouTube une station spatiale de toute beauté. Alors je ne sais pas si c'est une station spatiale qu'on
a
déjà vue.
On l'a pas déjà vue. J'ai l'impression.
Mais en tout cas, le plan reste beau.
Tu sais, ça me fait penser à la station spatiale qu'on voit dans Mando, tu sais, où il balance la.
Ah, je crois pas. Non, il ne semble pas que ce soit la même.
Ça me rappelle ce design. Effectivement, il n'y aurait pas le double porte-assiette, mais juste un module en fait.
Mais après,
les baies de hangar tout autour, la forme circulaire, j'ai l'impression de retrouver.
Bah, alors, ou c'est quelque chose qu'on a peut-être déjà vu dans The Clone Wars, pourquoi pas, ou ils sont déjà allés dans des stations spatiales, la Bad Batch, et donc peut-être qu'il y a ça. Un plan que j'aime beaucoup, alors ça va être le plan dans la rue. Une rue qui fait vraiment Star Wars. Bon, alors Tom nous dirait qu'il n'y a pas assez d'aliens, mais il n'est pas là pour pouvoir les défendre. Le plan, alors je sais pas, mais les trucs de bar et tout, je trouve ça. Alors, ça fait déjà la deuxième fois qu'ils vont dans un bar cette saison, mais je trouve que le bar est.
Quoi, gros, ça.
Non, parce qu'en plus, ils n'en profitent pas, donc c'est dommage. Donc, ils vont discuter avec le droïde Pit barman. Un peu trop de droïde Pit, d'ailleurs, on a vu dans cet épisode, c'était un petit peu la répétition.
Alors, moi, c'est. On est d'accord quand même que la Bad Batch, elle est toujours recherchée par les impériaux.
Ah oui,
hein.
Bah oui, voilà. Je trouve qu'il...
Donc là, on est d'accord que là, ils portent leur armure, ils ont les casques, machin, tout ça. Hein.
Alors, s'ils n'avaient pas le casque, ils seraient encore plus reconnaissables. Peut-être qu'il faudrait changer de déguisement, comme Crosshair sur la planète dans l'épisode 3 ou 4, je ne sais plus, quand il jouait le papa d'Omega, donc où vraiment on ne pouvait pas le reconnaître. Mais d'ailleurs, Ventress leur dit dans l'épisode d'après, hein, il dit « Vous êtes vraiment l'équipe de bras cassés de clones parce que vous n'êtes même pas capable d'être discret. » Un autre plan que j'adore beaucoup, c'est quand ils arrivent sur la planète avec cette espèce de, je sais pas trop, de spatioport sur l'eau avec des cuves de Bacta, probablement, pas de Bacta, de Gas Tibana. Côté Bespin. Ouais, c'est ça, mais je trouve que c'est vraiment réussi. C'est une quoi ? Une plage ?
C'est Bespin plage.
Ah, Bespin Plage, ouais, Bespin Plage. Donc voilà, on a quelques plans quand même. Ou Dunkerque, toujours Dunkerque. On a quelques plans quand même que je trouve vraiment, vraiment beaux au démarrage. Maintenant, c'est vrai que sur le reste de l'épisode, c'est quand même très, très faible. On n'a pas ce qu'on pouvait trouver dans d'autres épisodes de la saison. Donc, alors à la base, puisqu'on va donner une note, hein, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter pour cet épisode, on va donner une note. J'avais prévu de donner 0. Maintenant, comme il y a des petits plans que j'aime bien, je vais lui donner 5 sur 20.
Moi, je mettrais moins 12.
Alors, moins 12, on ne peut pas, Sylvain. Donc, on va se contenter d'un bon 0. Un bon gros 0.
Allez, peut-être pas 0, parce qu'il y a des combats contre les crocos. Ils sont marrants. Mais 2, quoi.
Allez, 2. Je dirais qu'il est vraiment dans le bas du tableau de toutes les séries animées confondues, cet épisode. Y compris les épisodes Timid Rebels. Aucun intérêt. Non, vraiment, on peut passer. Et donc, on passe à l'épisode 9. Sylvain, si tu veux nous faire le résumé.
Alors, c'est simple. Omega, elle se réveille un matin. Elle va faire un tour sur la plage avec son gros waf waf. Là, elle tombe sur waf waf, des petits grognements, machin. Il y a un truc qui va pas. Donc, Omega, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit un trou, elle rentre dedans. C'est une grotte. Il y a un gros vaisseau spatial à l'intérieur. Et là, pile dedans, il y a une nana patibulaire, mais presque, qui commence à lui parler. Et bah, coup de bol, elles font un Miami. Sauf que, bah, en fait, la nana, c'est Ventress. Aux dernières nouvelles, elle était morte, mais a priori, Filoni s'en fout. Et donc, bah, elle commence à tester Omega. Sous le regard inquisiteur de nos clones qui servent à rien. Donc, elle lui fait faire un peu d'équilibre, un peu de course à la con, mais c'est surtout pour se débarrasser de la chieuse. Elle lui fait deux, trois petits philosophies Jedi, forceux, Sith, machin. Elle met un taquet au clone parce que il l'aime pas. Elle sort son nouveau sabre laser à lame dorée, à lame jaune. Ensuite, elles font à Miami, sans Miami et sans deux flics, donc elles font quand même un grand bateau.
Non, c'est Niamos, voilà, c'est ça.
Elles vont pas se baigner dans l'eau, mais elles attirent des jolis poissons. Alors d'abord des tout verts, des tout fluo kryptonite. Alors personnellement, moi des poissons verts fluo comme ça, je fous pas un pied dans l'eau. Et même je suis en bateau, je me casse loin. Hein. Et
c'est... Ouais, bon après on est sur des planètes extragalactiques, donc.
Oui, c'est ça. Et puis après il y a le Kraken du coin. Hein, non, personne n'avait jamais entendu parler.
Moi je trouve que ça fait très Sarlacc des mers en fait.
Bah moi je trouve que ça fait très pourri parce que tu comprends pas l'architecture du bordel.
Bah non, les yeux sont en dessous de la bouche. J'ai mis du temps.
Les yeux sont en dessous de la bouche. Ils ont aucune vue vers l'avant. Non. T'as des tentacules, mais t'as le machin, il est entièrement carapacé, tu sais même pas comment ça se traite. C'est encore un truc de merde, ils ont assemblé ça avec une IA à la con qui s'est pas dessinée, et puis voilà.
Ouais, donc ça
se passe mal, mais en fait ça se passe bien, parce que Ventress elle fait copain-copain avec sa nouvelle bestiole. Et puis après, retour à la maison, après être sauvé par les clones qui voyaient sa boîte, qui se sont mis à tirer partout. Et puis, le dernier truc, c'est que Ventress, elle fait un test sanguin à la petite chieuse. Malheureusement, le test se retrouve négatif. Elle n'est pas exceptionnelle. On savait qu'elle n'était pas exceptionnelle, Omega. Elle est juste chiante. Donc, elle est un peu déçue. Elle se barre avec Waf Waf. Et en fait, hein, les clones, eux, ils sont sages et puis compréhensifs. Ils savent très bien que Ventress, elle ment. Mais Ventress leur dit qu'ils sont dans la merde, qu'ils ne sont pas discrets, que c'est des bras cassés et qu'Omega, elle va finir par mourir. Et qu'elle se barre. Et que il y en a que pour elle, et que elle est que son, elle ne fait rien que pour elle, et puis que si l'Empire vient la chercher, eh ben ils auront que ce qu'ils méritent de tard dans sa gueule. Fin de l'épisode.
Alors je commence tout de suite avec un commentaire de Philippe qui nous dit on a eu le Sarlacc de Lierre et le Sarlacc des Mers, il y a aussi le Sarlacc des Sables, il reste la montagne, on est bon. Et puis elle sait qui nous dit que en fait la gamine ne sert juste à rien sauf pour Palp Latine. Je vous invite vraiment à nous rejoindre quand on fait des lives parce que vraiment le niveau des blagues était vraiment à la hauteur de la communauté de Star Wars en direct. Hein. Donc merci, bravo pour vous. Hein.
Vous êtes géniaux les gars.
Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Voilà pour l'aparté. Je vais commencer pour ce coup, Sylvain, si ça te dérange pas. Tu pourras casser du sucre sur le dos après.
Ah oui, alors, je le défonce après, t'inquiète.
Voilà.
Alors, moins l'épisode d'avant, mais...
J'ai deux choses à lui reprocher principalement. La première, c'est évidemment le retour de Ventress sans absolument aucune explication. J'ai lu le livre où elle décède. Elle a une mort qui est absolument excellente, qui est juste très satisfaisante, qui est même...
Pas parce que le personnage meurt, c'est parce que...
La construction,
elle a tout
en fait.
Un chemin dans son...
Oui, c'est ça.
Dans ce,
de rédemption.
Elle se sacrifie, c'est de la rédemption, c'est beau. T'en chiales, parce que le bouquin aussi...
Ah ouais.
Là,
hein.
Tu chiales, t'as beaucoup d'émotions, et là, il y a l'autre qui nous la refait popper comme ça.
Alors,
par magie.
Beaucoup d'émotions pour un personnage, pourtant, qui est quand même très détestable au démarrage. Alors moi, je l'ai toujours apprécié, Evan Tress, hein. J'avais vraiment un intérêt pour elle, donc je suis content de la retrouver. Alors, elle a une nouvelle caractérisation, c'est pas tout à fait la Evan Tress qu'on connaît.
Et une nouvelle coupe de cheveux.
Donc ça, c'est plutôt raccord avec le roman, pour le coup, mais... Moi, j'aime beaucoup cette nouvelle caractérisation. Elle n'est effectivement pas une Sith, qu'elle n'a jamais été. Elle n'est pas un Jedi. Elle le dit, elle roule pour elle.
Non plus.
Elle l'a jamais été non plus.
Elle,
ouais. Elle roule pour elle, et quelque part, en fait, son comportement fonctionne très bien avec ce qu'on veut nous montrer. Et bah, mine de rien, moi, je trouve que ça matche très bien avec Omega. On a une Omega qui est... Alors moi, je l'aime beaucoup, hein, je vous rappelle, mais qui peut être agaçante, très, très... toujours bienveillante, toujours dans la positivité, etc. On a une Ventress qui est habituellement très cynique, très agressive. Et donc, imaginez en fait ce duo sur la durée, ce qui n'est pas le cas dans cet épisode, hein, on le voit juste un petit peu. Mais moi, je la vois en fait partir avec Ventress à la fin, et on aurait une Omega qui garderait peut-être ce côté bienveillant, mais qui serait un petit peu... lissée par ce que Ventress pourrait lui apprendre, et une Ventress qui pourrait peut-être un peu baisser sa garde aux côtés d'Omega et à la proximité de ses sentiments qu'elle n'a pas l'habitude de côtoyer. Donc voilà, ça c'est pour les projections que j'imagine moi pour la fin de la série. Maintenant, sur l'épisode...
Alors moi j'imagine qu'elle meurt dans d'atroces souffrances, Omega, mais...
Oui, mais j'ai bien peur de te dire qu'il y a peu de chances que ça arrive. Et qu'on va la revoir probablement adulte
dans une autre
20,
série
30 ou 40 ans ou dans une autre
on la verra film. Tiens, je
moi je pense qu'on la verra avec Ray, hein.
On la non moi je prends les paris, on la verra dans le film de clôture,
oui,
du film.
Mais c'est sûr et certain. Donc on a donc Ventress qui apporte des éléments de réponse, même si c'est très minime, sur les taux de midi-chloriens. Elle explique que Omega a peut-être un taux de midi-chloriens élevé, mais que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir si elle s'en sert. C'est pour ça qu'elle va la tester. Alors, on peut un peu rire des tests, hein, parce qu'elle va faire une demi-journée de tests. Elle va faire deux tests. Elle va la faire rester en équilibre sur un rocher glissant et essayer de communiquer avec les poissons. Je pense qu'il faudrait peut-être continuer un petit peu plus loin pour avoir des tests probants et qui permettent vraiment de déterminer si Omega peut utiliser la
c'est
force.
C'est pour ça, un combat à mort, un coup de sabre laser, et Omega n'a rien
pourquoi
sur
pas.
Elle.
Pourquoi pas
non, mais à un moment,
On a quand même des personnages qui ont commencé leur formation tardivement et qui ont réussi à maîtriser la force. On avait dans les deux premiers épisodes, déjà à l'époque, et je me souviens que ça avait été évoqué dans les émissions, on pensait que peut-être elle était... sensible à la force, puisqu'elle avait des intuitions quand même, donc il y a quand même quelque chose, ça vient pas de nulle part quelque part, et effectivement elle ne sait pas s'en servir. Maintenant, il y a quand même un petit côté intuitif, c'est pour ça que je la vois partir en fait avec Ventress à la fin, puisqu'à mon avis ben, on n'est pas dans la fin de cette ah Sylvain, arrête d'afficher des commentaires. J'essaye de pas les regarder. Donc voilà, ça c'est le côté les tests, c'est un peu faible. Par contre, j'adore ce qu'ils ont essayé de faire avec Ventress et Omega, je trouve que ça fonctionne très bien. J'aime bien le côté protecteur des clones, et à la fois j'adore qu'on leur dise que c'est des bras cassés, parce que c'est vrai. Et en fait, ce que dit Ventress, c'est que si elle n'est pas en capacité d'utiliser la force, c'est tout simplement parce que avec un entraînement militaire, à apprendre des choses et à ne se reposer que sur ces cinq sens, la vue, l'ouïe, etc., l'odorat, comme le ferait Hunter, par exemple, sur de la force, comme le ferait Wrecker, sur de la précision, comme le ferait Crosshair, ben, en fait, effectivement, ah, elle ne peut pas écouter. Elle ne peut pas écouter ses instincts, et elle ne peut pas aller au-delà de cet entraînement et de ce...
Alors, je comprends la logique. Le problème, c'est qu'au début de ta phrase, tu as dit que c'était des bras cassés. Et juste bien après, tu as enchaîné sur leur super pouvoir. À un moment, il y a des...
Attends.
Soit c'est des gars avec des capacités extraordinaires.
Ils ont des capacités extraordinaires, d'accord, et ils les utilisent. Maintenant, la gestion de la protection d'Oméga, la gestion de comment on arrive à disparaître, là, c'est des bras cassés. C'est ça qu'elle leur dit. Hein. Elle leur dit pas « vous êtes nuls en tant que soldat », elle leur dit « vous êtes nuls, entre guillemets, en tant que père ». Et donc, ben, vous voulez protéger cette gamine que l'Empire trouvera de toute façon, ben, il va falloir que vous fassiez autre chose, quoi. Et voilà, donc tout ça, moi, j'aime bien.
Alors, je t'invite à aller devant le siège de la Légion étrangère, de prendre le premier que tu vois et de lui dire que c'est un bras. De lui demander la différence, de le traiter, un, de nul, deux, de bras cassé. Après, si tu survis à la rencontre, tu me diras ce qu'il en pense de la différence. Parce que la série nous les montre comme des... Honnêtement, comme des bras cassés. Mmh. Depuis qu'ils ont Oméga, ils nous les montrent, non pas comme des... C'est pour ça que je grogne sur cette série-là.
Et c'est probablement pour ça que ce sont des bras cassés. Ce sont des bras cassés parce qu'ils ont la responsabilité d'Oméga et Oméga ne peut pas développer ses pouvoirs parce qu'elle est avec eux.
Non, mais on devient pas subitement con dès qu'on a un gamin à charge. Faut pas déconner non plus. Je vois bien qu'ils aient pas le manuel du père de l'année, mais ils sont cinq, ils ont un robot, ils sont aidés, et a priori la gamine aussi a un peu de jugeote. Faut arrêter avec le coup du oh là là, vous êtes un peu con les gars, et oh ça suffit.
C'est un des tropes de Star Wars. On parle toujours de personnages aux capacités surhumaines, que ce soit des Jedi ou que ce soit des clones. On les voit jamais, hein. Ça n'arrive jamais. De temps en temps, on a un moment un peu héroïque où ils vont vraiment. Alors, je parle pas forcément des clones, hein, je parle de manière générale dans la saga, où ils vont dépasser un petit peu ce côté-là. Ils vont vraiment avoir un truc qui va sauver tout le monde. Mais sinon, la plupart du temps. Ils sont tous nuls, en fait. Hein. Ils sont tous des mauvais tireurs. Luke, il a des pouvoirs de la force, il les utilise pas. Les Jedi, c'est encore pire. Et donc, je vois pas, en fait, en quoi c'est choquant d'avoir trois clones qui étaient des mercenaires commando et qui, tout à coup, parce qu'ils se sont fait avoir par les sentiments d'avoir une gamine avec eux, ben, deviennent un petit peu moins bons. Oui, je suis d'accord avec toi, Sylvain, ça devrait pas arriver. Au contraire, ils devraient mettre à profit leurs capacités pour qu'elles soient totalement en sécurité. Sauf qu'en fait, ben, ça se passe exactement comme dans tout le reste de la saga.
Et c'est une bonne chose.
J'ai pas dit que c'est une bonne chose. Hein. J'ai juste dit que je vois pas ce qui est choquant par rapport au reste de la saga.
Mais parce que ça me gonfle. On revient toujours en... Elle est où la nouveauté? On revient toujours au même truc. Tu vois, je veux vraiment arrêter d'utiliser l'argument Zack Snyder. Mais si tu prends tous les films sur Superman qui ont été sortis, il y en a combien des films où ils rattrapent des avions et des hélicos qui tombent?
Bah, que dalle. Il y en a qu'un, non?
Quasiment tous.
Ouais.
Quasiment tous. À part ceux de Snyder.
Ah oui, pardon. Je pensais que tu parlais de ceux de Snyder. Autant pour
moi. Non, justement, il a essayé de faire autre chose. Moi, c'est ce que je voudrais.
Oui, oui, je suis d'accord.
Encore une fois, on me donne des commandos qui doivent s'occuper d'une gamine. Mais je veux voir ça. Je veux pas voir trois hommes et d'un couffin avec des gars qui sont complètement largués parce qu'ils ont une couche culotte à changer.
Mais je suis pas en désaccord avec toi, hein. Vraiment. Je serais tout à fait client d'avoir, et même pourquoi pas quelque chose de plus mature et de plus dangereux, même. Sans avoir forcément une méchante bébête à la fin de chaque épisode, parce que ça me gonfle.
Oui, mais un poil plus mature. Pour moi, en plus, l'argument de c'est un dessin animé, c'est pour les enfants.
Non, ça c'est.
L'achetin, mais moi, j'étais gamin quand il y avait la série Batman.
Bien sûr.
Il y a une série qui est sortie. Il y avait Superman, il y avait la Justice League, il y avait Dragon Ball. C'était une série pour gamins, pour adolescents. Il y avait. J'avais pas l'impression qu'on me prenait pour un débile profond. Là,
non, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord.
Là, non. Mais... J'ai vraiment l'impression que le niveau, ils l'ont. J'avais eu cette conversation avec. l'un des critiques d'écran large, Antoine, coucou si tu passes par là, quand on avait été tous les deux à la projection presse de La Maison Hantée, où oui, au final, c'était Disney. Pas super top. Et oui, l'argument, c'est « Ah oui, mais c'est pour les enfants, c'est... Bah, justement, sortez-vous les doigts, en fait. » Parce que c'est des enfants, ça devrait être ultra travaillé, ultra recherché. Là, « Oh non, mais c'est pour... c'est pas pour les enfants, c'est pour les débiles, là. » C'est...
Ouais, c'est ce qui ressort des commentaires hein, dans le chat aussi, mais... Alors... C'est compliqué parce que je suis d'accord avec toi, mais je suis en capacité d'accepter des choses qui sont peut-être un peu moins fortes. Je ne parle pas forcément que pour les enfants, hein, je parle aussi pour les adultes. Et pourtant, je sais parfois être super critique. Je reprends Ahsoka ou les films, hein, les derniers films que sur lesquels j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, je suis partagé. Mais en fait, peut-être que cette série, comme elle a moins d'impact, d'accord ? Oui, on doit raccorder Palpatine. Mais je veux dire, on sait comment ça va finir. Donc, c'est une série qui a forcément moins d'impact. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, elle n'est pas dans la saga Skywalker. Elle est dans la temporalité, mais elle n'a pas cette importance. Et donc, j'accepte aussi, quand on a quelque chose de moins important, ben, peut-être qu'il soit moins poussé, tout simplement. Alors, c'est peut-être un peu trop parfois. Oui, choqué. C'est caricatural. Ça peut être embêtant sur plein de sujets. Mais moi, ça me choque pas parce que j'ai lu des livres, effectivement, et que dans les livres, ben, on a des scènes comme ça, on a des chapitres qui ressemblent à certains épisodes. Et peut-être que je suis plus indulgent.
Alors, je suis pas d'accord avec tout. Enfin, moi, je mets pas de niveau, de niveau du c'est plus ou moins important de machin. C'est on me donne, je prends. Tu vois, c'est la. Je mets pas d'abord les films, puis les séries, puis les bouquins, puis les jeux vidéo. On me présente, je me donne. Et je préfère ceci, je préfère cela, mais je mets pas de niveau. Donc c'est peut-être pour ça que c'est peut-être pour ça que j'ai cette réaction viscérale face à cette série.
Oui, je pense que c'est ça en fait qui fait que
assez recherché. C'est tu me donnes, donc fais-moi. C'est, tu t'enquiquines à créer ça, tu t'enquiquines à mettre de l'argent là-dedans sur plusieurs années. Donc fais que ce soit à la hauteur de la réputation du truc, quoi.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, Sylvain aussi. Je suis
c'est
d'accord.
C'est ça, là, j'ai pas ce classement, en fait. Bien sûr, il y a les films qui doivent être le joyau, le diamant. Mais ensuite je ne fais pas le tri dans les bouquins, les jeux vidéo. C'est tu t'es cassé le cul à me donner à faire ce truc là, fais en sorte que ça se bon, que ce soit le plus recherché possible, quoi.
On a des commentaires intéressants d'un Philippe qui nous dit qu'il faut que je lise les livres enfants de la phase 3 pour voir que c'est clairement plus mature que Bad Batch. Peut-être, bien sûr, pas de souci. Hein. J'entends la critique. Je suis pas un fervent défenseur de The Bad Batch. Je dis juste que sur moi, ça fonctionne. Je dis pas que c'est la série de l'année. Je dis pas que c'est la meilleure série Star Wars. Je dis juste que ça fonctionne. Ah, peut-être un autre argument qui fait que je suis un petit peu plus tolérant, c'est que je suis totalement fan en fait du côté graphique qu'on a depuis The Clone Wars. Et en fait, je suis content d'avoir une petite dose de Star Wars aussi. Et Pierre Richard qui nous dit « Un enfant qui a zéro expérience de la vie, qui te sort des philosophies d'adultes, zéro crédibilité pour moi. Je reviens à l'exemple de Ahsoka, son évolution correspond à l'expérience accumulée. » Je suis en partie d'accord. Et pourtant, je vais citer un exemple personnel. À l'âge de 8 ans, mon fils... Donc c'était en histoire à l'école, il parlait de la Révolution française. Et donc il parle de la Révolution française, etc. On parle de ça, ok, machin. Puis il s'arrête et il me dit, mais papa, en fait, le roi, il n'avait rien fait de mal. Ben non, en fait, le roi n'avait rien fait de mal. Techniquement, il a eu la tête tranchée, je ne dis pas pour rien, mais il n'avait pas fait d'acte répréhensible ou forcément répréhensible. Donc, un enfant de 8 ans, un enfant de 9 ans, un enfant de 10 ans, 12 ans, est capable d'avoir une réflexion sur sa vie, sa condition, sur plein de choses qui sont dans son environnement. Oui, peut-être que c'est un petit peu beaucoup pour Omega, mais je rappelle que Déjà, elle a eu une vie quand même qui est assez particulière, en vase clos, dans, avec des extraterrestres. Elle est née d'une éprouvette, elle le sait. Donc peut-être que déjà cette philosophie qu'elle a, elle est née de son expérience, elle est née de ce qu'elle a vécu quand elle était sur Kamino, avec des Kaminoens qui sont peut-être plus philosophes que les humains aussi, hein, faut le voir. On ne sait pas ce qu'il y avait comme échange, on ne sait pas ce qu'elle a eu comme éducation à ce niveau-là. Donc je suis pas, enfin moi ça me choque pas du tout en fait. Oui, c'est une enfant et on la transpose comme nous, on aurait nos enfants autour de nous. Ben ouais, mais elle n'a pas eu la vie d'un enfant terrestre. Elle a eu la vie d'un enfant reclus sur Kamino, entre les siens et ces gens un peu chelous avec des longs coups. Donc non, ça ne me choque pas du tout. C'est peut-être, oui, c'est un peu extravagant. Oui, c'est caricatural. Mais ça ne me choque pas. Alors, Sylvain, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'épisode ?
Ouais, non. Comment... Non.
Vas-y, vas-y.
Tu m'entends ?
Ouais.
Comment ça se fait que personne n'a vu Ventress arriver ? Parce que la grotte, en fait, elle est au pied de la montagne où ils sont tous.
Sylvain, je veux dire, ils sont tous au pied de la montagne, mais je suis pas sûr qu'ils soient en permanence en train de regarder l'horizon, tu vois.
Alors, pardon, excuse-moi.
Oui, ils sont sur la terrasse.
Ils sont sur la terrasse, ils ont leur vaisseau en état d'alerte, ça fait plusieurs épisodes qu'à chaque fois qu'il y a un vaisseau qui arrive dans le coin, ça leur est signalé. Donc à un moment, je veux bien que tu sois pas attentif tout le temps. Encore une fois, c'est si tu es en haut de la Tour Eiffel et qu'il y a un hélico qui arrive sur les quais de Seine, tu l'entends à moins de le voir, tu l'entends. Ouais. Le coup du non mais elle est arrivée de nuit, elle est arrivée dans le soleil et puis elle a plongé au ras des vagues et puis
on est sur la fameuse logique à la Star Wars où il y a du bruit dans l'espace, etc. C'est pareil. Un coup, ils entendent des vaisseaux arriver. Tu aurais un chasseur taille qui arrive, tu l'auras entendu.
Excuse-moi, c'est de la mauvaise foi. On te fait popper un personnage et son vaisseau dans une grotte au petit matin. On te donne pas l'explication. Faut pas s'en sortir. C'est juste que ils ont pas dit. C'est juste que ils avaient besoin de faire apparaître ce personnage-là. À ce moment-là, point, ils n'ont pas donné d'autres explications. Alors, le monde de Star Wars a quand même une certaine logique. Là, il n'y a aucune foutue logique du fait que son vaisseau et elle...
Sylvain, pop, je t'invite comme ça. À écouter la dernière émission de littérature où Jean et Francis citent Georges Lucas qui disait lui-même, quand il a fait les films, oui, il ne faut pas trop chercher toujours la logique. Et c'est tout, en fait. C'est ça qui régit l'univers depuis le début. C'est la pierre de démarrage du mur sur lequel Star Wars a été fondé. Oui, tout n'est pas logique. Oui, des fois, sur certains points, ça va m'emmerder, et d'autres, ça ne va pas m'emmerder, et toi, tu auras peut-être des points différents. Et là, je me suis fait la même réflexion que toi au début de l'épisode. Je me suis dit, ne me dis pas quand même que dans la grotte, elle va découvrir un vaisseau. Ah, bah si, il y a un vaisseau. Ok. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, ouais, on est quand même sur un gros rocher. Donc ils peuvent très bien être sur un côté, elle arrive par l'autre, elle rentre dans la grotte, elle rentre de nuit, elle rentre quand il y a un orage, quand il y a une tempête, on sait rien, ça se trouve ça fait 5 jours qu'elle est là. Donc non, oui, peut-être des fois c'est un peu gros, mais je vois pas la différence avec d'habitude.
Donc en gros, c'est ta gueule, c'est magique. C'est la pire explication du monde.
Mais c'est pas magique, je viens de te donner les possibilités.
Non,
je viens de donner 4 possibilités au moins.
Non, c'est non. C'est il y en a pas de bonne. Même l'orage de nuit, machin.
C'est Star Wars.
Même de nuit, t'as tous les vaisseaux qui volent tout feu allumé, bordel.
Mais je
même
sais,
avec
mais
leurs torches.
C'est Star Wars. Non,
ils ont
c'est Star Wars. Couper. Comme le scénario en a besoin, comme dans tout le reste de la saga. Alors, Philippe, je suis en partie d'accord avec lui. Philippe nous dit, ils n'ont pas voulu se faire chier, c'est tout. Oui, bah, des fois, on n'a pas l'esprit d'un scénariste, mais c'est clair que ça se passe pour certains d'entre eux, c'est on n'a pas besoin de s'embarrasser à tout raconter et à tout montrer. Donc, on place comme on a besoin, et voilà. Et des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionnera moins bien.
Ça va te déranger
à d'autres moments, là, moi, pas.
Ne me convient pas.
Oui, je comprends.
Ça me convient pas, et même, je vais te dire, ça m'énerve, parce que pour moi, c'est du travail de sagouin.
C'est le cas dans plein de choses.
Oui, mais j'ai pas dit que c'était le unique truc. C'est du travail de sagouin, c'est du travail de fainéant. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des mauvais scénars, avec des films et des séries plein de trous, remplis d'incohérences. Et au final, tu te retrouves comme l'autre couillon là qui essaye d'attaquer je sais plus quel service de streaming parce que ça fait 10 ans qu'il essaye de pondre des scénarios. Et qu'en fait, aucun de ces scénarios n'est pris parce qu'ils sont nuls à chier en réalité. Mais il se dit que,
Non. Pierre Richard nous fait un commentaire aussi. Il dit, faut pas chercher la logique. Il dit, je ne peux pas croire que les Jedi aient pu garantir la paix pendant 1000 ans en voyant les Jedi de la trilogie originale. Il dit, par contre, j'y crois avec les Jedi de la prélogie. Oui, parce que à un moment donné, on utilise un élément de scénario comme il nous arrange, et après, des fois, il est transformé, il est enrichi, il est vu d'un autre point de vue, et ça fonctionne. C'est ça, Star Wars, ça a toujours été comme ça. Je pense, Sylvain, que si on discutait avec des scénaristes qui sont dans le monde de l'audiovisuel et dans le monde du cinéma, ils nous diraient la même chose. Des fois, oui, on ne s'emmerde pas avec les détails. Alors, peut-être que des fois, ça veut dire qu'il faut accepter en fait, le point de démarrage. C'est le cas dans plein d'histoires.
Je suis encore moins enclin de l'accepter. Parce que à chaque fois qu'on remonte des bugs, que même sur d'autres scénars, d'autres films, d'autres séries, on se retrouve avec ces excuses. Oh non, mais il faut pas s'attarder. Faut essayer de machin. Les Marvel, ils en sont remplis et à chaque fois leur explication. C'est ça. Ah non, mais on n'avait pas trop le temps. Non, mais il faut accepter le truc. Et puis, Regarde, c'est ce que Philippe dit. Finalement, avec quoi on doit s'emmerder alors ? Qu'est-ce qui doit alors être mis en avant et
l'élément clé de l'épisode, c'est pas de savoir comment Ventress allait rentrer dans la grotte. On s'en fout. Ils n'ont même pas besoin de nous le montrer. On n'a pas besoin de le savoir. Alors, je te pose une question, dans l'épisode 9, comment les vaisseaux font pour passer les régions inconnues entre l'espace connu et Exegol alors qu'ils n'ont pas d'orienteur site ? Ça fonctionne.
J'ai pas dit que j'ai...
Voilà, mais à la fin, les vaisseaux sont là.
Non, j'ai pas... Attends, non, mais j'ai pas dit que ce truc-là me faisait pas bugger. Tu peux pas savoir le nom de film que je ne supporte pas parce que je m'arrête sur des détails d'incohérents. Pacific Rim, je sais pas toi, mais moi je ne peux pas apprécier ce film-là, tout simplement parce qu'il y a un truc sur cette planète Terre qui s'appelle la physique. Comment tu veux bouger un putain de robot pareil ? Comment même tu veux... Le principe même de synchroniser des cerveaux humains, ça ne fonctionne pas.
Mais c'est le principe de la science-fiction, Sylvain. Le principe de la science-fiction, c'est bien de mettre en avant des choses qui n'existent pas et d'essayer de les rendre crédibles en laissant forcément de côté certains éléments, puisqu'on sait que si on ramène ces éléments, ça ne peut pas fonctionner.
Mais c'est pas un élément, c'est tout le concept au cœur du film.
Mais peu importe.
On va coller deux... Allez, ok, d'accord. Là, comment ça... T'as déjà fait des études de mécanique ? Moi, j'en ai fait. Rien que le doigt de leur putain de robot, il pèse des dizaines de tonnes. Et les mecs te disent, on met des gars dans des robots pour se
taper. Sylvain, on regarde Star Wars. On a une station spatiale de la taille d'une planète. Comment tu veux qu'elle fonctionne ? À partant de ce principe-là, il n'y a absolument aucun système de science-fiction qui ne peut fonctionner.
Parce que dans Star Wars, on ne te dit pas comment c'est censé fonctionner, d'accord ? Dans Pacific Rim, tu as 20 minutes de comment leur bordel il fonctionne. Tu peux pas d'un côté expliquer pendant 20 minutes comment ça marche et te torcher le cul avec les lois fondamentales de la physique et de la gravité.
Bien sûr que si, c'est le postulat de départ. Sauf que si tu n'acceptes pas le postulat de départ, mais c'est le cas pour toutes les histoires, si tu acceptes le postulat de départ, tu peux rentrer dans l'histoire. Si tu n'acceptes pas le postulat de départ, tu ne peux pas rentrer dans l'histoire. Mais toutes les histoires sont construites comme ça. Alors, il y en a qui sont plus terre-à-terre, il y en a qui sont plus crédibles, et il y en a d'autres qui ne le sont pas.
Peut-être, mais moi, ça met hors de moi.
Je comprends. Mais il y a des choses, on essaie de nous les rendre crédibles, on sait très bien que ça ne fonctionnerait pas. Le premier Iron Man, ils essayent de nous amener les choses de manière totalement crédible. Il n'y a pas de pierre magique, il n'y a pas de truc. On a développé une technologie qui ne fonctionnerait pas en vrai, et ensuite, on l'adapte, on la miniaturise, on la met dans une armure, ce qui ne fonctionnerait pas en vrai. En vrai, Iron Man, il se prend une roquette dans la tête. Il est mort cuit dans son armure. Et bien pourtant, dans le film, ça fonctionne. Mais parce qu'on accepte le postulat de départ qui est qu'on essaye de nous le rendre crédible, ben ok, moi j'accepte qu'on essaye de me le rendre crédible, même si je sais pertinemment que sur Terre, ça ne fonctionnerait pas pour de vrai. Mais bon, voilà. Et Star Wars, pour moi, ça fonctionne pareil. Star Wars, ben, les lois de la physique ne s'appliquent pas. Toutes les planètes ne devraient pas avoir la possibilité d'avoir la même gravité et d'avoir la même atmosphère. Et pourtant, c'est le cas. Et ça fonctionne. Les vaisseaux ne devraient même pas pouvoir passer en hyperespace ou s'extraire de l'atmosphère de la planète sans que les passagers en chient grave à chaque fois. Et pourtant, ils n'ont aucun problème à rester debout dans les vaisseaux et à se déplacer. Ça fait partie du postulat de départ. Alors oui, faut l'accepter ou pas. Ben, je l'accepte. Mais je suis d'accord avec toi, hein. Des fois, ça m'agace plus que d'autres. Là, je l'accepte volontiers. Il y a d'autres endroits ou d'autres moments où je ne l'accepterai pas. Par exemple, je vais reprendre l'exemple d'Ahsoka. Quand ils arrivent sur le chien-loup et qu'ils passent sous le Star Destroyer qui n'est même pas capable de les toucher, ben non, en fait, ça, je n'accepte pas. Parce que vu la puissance de feu du Star Destroyer, ben, ils ne doivent même pas pouvoir arriver à la moitié du Star Destroyer sans avoir été complètement détruit, quoi. Quitte à ce que ce soit tout le périmètre qui soit détruit. Donc voilà, là par exemple, je trouve que ça ne fonctionne pas, mais ça ne fonctionne pas avec les règles de Star Wars qu'on nous a montrées. De la même façon que ce qui m'énerve, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une poursuite en vaisseau, bah, il y a trois chasseurs TIE derrière les bonhommes, alors que les hangars sont blindés, qu'il y a je ne sais pas combien de TIE Fighters et de pilotes qui attendent qu'on leur dise foncez. Voilà, ça fait partie des postulats de départ.
Comment dans les films, on t'a dit combien il y avait de TIE Fighters dans les Star Destroyers?
Ben,
à aucun moment dans les films.
Pas dans les films.
Ben voilà.
Alors maintenant, on a eu des éléments de réponse. On a vu des choses où les hangars sont remplis.
Dans les films, est-ce
t'as vu Rogue One?
Oui.
T'as vu Rogue One? Ben regarde bien au moment où ils arrivent sur Scarif. Le nombre de chasseurs TIE qui sortent du hangar. Donc, s'ils sortent du hangar, c'est qu'ils sont stationnés dans le hangar. Donc, ça veut dire qu'il y a du...
Bah, et forcément, c'est une petite... ils ont peut-être été chercher leurs potes.
Non, c'est une petite station spatiale.
Ah, on ne te l'a pas montré. Si ça se trouve, ils étaient juste en vacances là et ils sont arrivés.
C'est une petite station spatiale, donc on peut quand même extrapoler sur la place qu'il y a dans un Star Destroyer pour charger tout ça. Bref, tout ça pour dire que voilà, on est sur des postulats, on les accepte, on les accepte pas. Ils sont parfois différents en fonction des séries, c'est vrai. Il y a des postulats qui sont différents en fonction des séries. Des fois, ça fonctionne différemment. Et bah, c'est plus dur ou moins dur à accepter. Je suis d'accord avec toi, Sylvain, aussi. Puisque parfois, bah, je vais être aussi énervé avec toi sur d'autres détails. Donc, je comprends en fait ton énervement et ton agacement là-dessus. Je ne le ressens pas sur cet épisode. Alors, l'homme qui a survécu à deux bombes nucléaires, si c'est dans un film, on parle d'incohérence, non? Non, je n'ai pas trop compris, mais non, pas forcément, ça dépend du postulat de l'art de l'univers. Je ne sais pas si ça parle de
Wolverine. On parle de Wolverine.
Et si on parle de Wolverine, non, je ne trouve pas du tout ça incohérent, mais bon.
Bah non, puisque le principe de base, c'est qu'il a un facteur auto-guérissant.
Et donc, tu vois, c'est le principe de base, et c'est ça le postulat de base. Si on n'accepte pas que Wolverine puisse avoir un facteur auto-guérisseur parce que ce n'est pas humain, et qu'il ne puisse pas avoir un squelette machin, bah effectivement, on ne peut pas rentrer dans l'histoire de Wolverine. Ah oui, histoire vraie. Oui, ça me dit quelque chose. Je n'ai pas les détails, donc on ne va pas épiloguer sur le sujet, mais oui. Donc voilà. Sylvain, une note pour cet épisode?
2.
Ok. Donc même note que pour l'épisode précédent. Moi, je vais lui donner un bon 13, parce que effectivement, je ne le trouve pas parfait. Je le trouve pas parfait, mais en même temps, j'ai trouvé mon compte. Voilà. Quelque chose à ajouter, Sylvain, de plus ou pas?
Ouais, qui recherchent leur scénar. Et qui rajoutent plus de détails plutôt que faire popper des trucs comme ça, juste parce qu'ils en ont besoin ou envie.
Alors, juste un point qu'on n'a pas évoqué, mais c'est quand même, j'ai trouvé l'épisode très très beau là aussi. Alors, beaucoup plus beau que l'autre d'avant. Hein. Je trouve que ça fonctionne bien. J'ai trouvé que la dynamique était bonne. Enfin, voilà. Donc voilà, un 13 pour Sylvain, un 2. Pour dans le chat, on a du 3 sur 10, donc ce qui nous fait du 6 sur 20. Là, je sais pas, les gars, on manque de ces discussions au Québec.
Qui ne mène à aucune conclusion. Ah, mais on est d'accord, mais on n'a jamais dit qu'on allait se mettre d'accord. Hein.
Non, en plus, on n'est pas d'accord.
Oui, non, mais le principe d'une discussion et de truc, c'est pas de. Je cherche pas à convaincre Loïc ou vous que j'ai raison. Je vous donne.
Et pourtant, je suis parfois d'accord avec toi hein, sur certains points.
Ah oui, et moi parfois aussi avec toi, c'est. Je donne mon avis, ça me convient pas, on va passer à autre chose.
On a Star Wars, ça fait parler, c'est ça le postulat de départ. C'est vrai. Le postulat de départ, c'est qu'on ne sera pas d'accord. Wars,
tout ça.
Voilà, exactement, chacun son Star Wars. Voilà, bah, sur ces mots, on va clôturer cette émission qui fait une heure. Donc finalement, on a quand même
réussi à
faire un peu plus que ces deux épisodes réunis, sans scénario.
Oui,
pourtant, sans...
Hein. Bah, oui,
on n'avait pas de scénario et on a réussi. Avec un postulat de départ.
Un postulat de départ.
Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, si vous voulez discuter de ces épisodes, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, vous pouvez nous envoyer des mails, vous pouvez nous laisser des commentaires sous cette vidéo YouTube, laisser un like sur les autres réseaux, si tu veux nous les lister.
Ouais, attends, ils sont où?
SW ils en direct, le là. Podcast. Voilà.
Ils sont là.
SW en direct pour Instagram, SW en direct point bluesky.social, enfin BSKY.social. Les réseaux pour nous rejoindre, pour nous trouver. Évidemment, YouTube, la cloche, tout ça. Mettez un pouce, partagez l'émission, relayez-la sur les réseaux. Ça nous fait de la visibilité, ça nous fait du bien. Vous étiez 10, 10, 12 même à la fin de cette émission. Merci à vous. Ouais. Merci à vous d'être resté avec nous.
Merci à tous.
Et puis, cette émission va s'ajouter à la longue liste d'émissions de Star Wars en direct qui vont nous permettre peut-être un jour d'atteindre les 1000 épisodes. Hein, c'est l'objectif.
On y est bientôt, là, en plus.
On y est bientôt.
On y est bientôt.
Ouais. Cette année ou l'année prochaine, on verra. Donc, merci à tous. Merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct depuis plus de 20 ans, la voix du fandom Star Wars. Et que la force soit avec vous.